La suite de votre grand journal du soir, Sébastien Krebs, et c'est l'heure de zoomer sur toutes les dernières infos du jour avec nos grandes voix. Elles sont là autour de vous, mais à distance. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, et avec toutes vos réactions, bien sûr, au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Bonsoir, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir à tous.
Sébastien.
Bonsoir.
Merci d'être là en ce 1er mai, les grandes voix pour décortiquer l'actualité. On va commencer avec vous, peut-être Ève Roger. Revenons sur ce micmac autour des cartes de l'épidémie qu'on attendait, qui ont été diffusées hier soir, avec des départements en vert, des départements en rouge, mais certains par erreur. Alors, une correction attendue ce soir, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le gouvernement n'est pas allé un peu vite?
Bah, moi, il me semble que si le gouvernement jouait aux chiffres et aux lettres, il gagnerait pas du tout, parce que du côté des chiffres, on a vu, il manque un critère, et puis après, ils se sont emmêlés les pinceaux. Mathieu Charrier nous l'a bien expliqué tout à l'heure sur les chiffres. Donc, effectivement, il va y avoir des correctifs ce soir. Et puis, sur les lettres, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir de nos droits et nos devoirs quand on est rouge, en rouge ou en vert, ou même en orange, puisque cette couleur vient d'être créée ex nihilo. Donc, en fait, effectivement, pour moi, cette annonce des cartes à sans doute était très prématuré, et en même temps il faut aller très vite puisque le 7 mai, c'est-à-dire le jour où ces cartes vont être figées, c'est dans une semaine. Et je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas comment dans une semaine il peut y avoir des cartes qui soient fiables et justes, parce que c'est le troisième critère.
Et il manque un critère encore.
Et c'est ça, le troisième critère qui est celui de à la fois la capacité à faire des tests, mais aussi à remonter les chaînes de contamination, c'est-à-dire fabriquer ces brigades départementales qui vont passer des coups de fil pour demander qui a été vos cas contacts, qui ont été vos cas contacts et est-ce qu'ils doivent se faire tester. C'est même pas encore voté, ça va pas, c'est un projet qui est présenté demain au Sénat. Donc je sais qu'on est dans une course contre la montre depuis le début de cette épidémie, mais c'est vrai que là, on se demande comment, en une semaine, on va pouvoir faire quelque chose qui est fiable et qui ne soit pas contesté. Parce que c'est bien ça le problème, c'est l'adhésion à la fois des élus et de la population à cette carte.
Et si on ne sait pas exactement ce que ça va changer le 11 mai, finalement ces couleurs ne vont pas changer grand-chose au 11 mai, c'est plus pour la suite.
Ça va changer des choses, parce que en fonction de si vous êtes rouge ou vert le 11 mai, ben vous aurez pas les mêmes droits. Mais le problème, c'est que si c'est contestable, si c'est contesté, et ben vos droits, vous savez comment on fait. On entendait déjà les gens qui sortaient du confinement avant parce qu'ils en avaient un peu marre. C'est ça la difficulté. Il faut une adhésion pour que ça puisse fonctionner. Et maintenant, à J moins, disons 8 jours, le 7 mai, à J moins 10 jours, et ben on en est loin. Et c'est ça qui est inquiétant.
Alors en tout cas, ça pose des questions, ça interroge et ça fait beaucoup réagir au 39-21. On est en ligne avec Yves, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir composé le 39-21. Vous avez regardé ces cartes, d'où vous êtes originaire?
Je suis originaire de Champagne, dans l'Aube très exactement, et nous sommes bien évidemment en zone rouge. Alors personnellement, je pense que ce système, c'est à la fois la meilleure et la pire des solutions, c'est-à-dire qu'il ne peut satisfaire vraiment personne. C'est la meilleure car elle offre une possibilité de respiration aux zones vertes, donc de retrouver une activité économique acceptable. La pire car elle crée un sentiment, à mon sens, d'inégalité entre les provinces et les régions de France. Même si le système, me semble-t-il, est évolutif, il restera forcément inégalitaire entre les grandes zones urbaines et les zones rurales. C'est donc la quadrature du cercle, à mon sens, qu'il va falloir résoudre. Or, les Français sont déjà sous tension. Est-il indispensable d'accentuer le phénomène? À mon sens, la réponse n'appartient pas au seul monde médical. Il est du domaine politique, c'est-à-dire du courage, et de faire en sorte que le malade ne meure pas en bonne santé.
Voilà. Merci Yves pour votre analyse qui rejoint finalement celle d'Ève Roger. C'est la question de l'adhésion et comment les départements rouges vont vivre le fait que peut-être le département d'à côté, qui n'est pas forcément si loin, est vert et a plus de droits que lui.
C'est vraiment la question. On le sait en Île-de-France et dans le Grand Est que c'est rouge, c'est normal. Personne s'attendait à autre chose hier soir. Mais c'est vrai que tout d'un coup, les intrus plus cette région qui a quand même été très élargie, c'est vrai que ça peut poser problème et que la population peut se rebiffer, je dirais.
Mickaël Darmon, je viens à vous parce qu'elle est décidément compliquée, cette communication autour du déconfinement. On a l'impression d'aller-retour en permanence entre l'espoir du 11 mai et puis finalement, attention, ça va pas être la vie normale, etc.
Oui, non, c'est vrai que la méthode de communication du gouvernement, on a l'impression que c'est le stop and go. Ça va s'améliorer, puis après on revient en arrière. Là, je pense que la créativité de l'exécutif est sans fin. On nous a annoncé effectivement depuis quelques jours avec le discours d'Edouard Philippe la nouvelle cartographie, comme on a évoqué en rouge et en vert, pour découvrir d'abord effectivement, comme le disait Roger, ex nihilo, une couleur orange, et puis avec évidemment la confusion que l'on voit et qui, pour reprendre ce que disait notre auditeur, qui est effectivement très symptomatique, fait en sorte qu'il y a une grande difficulté à créer de l'adhésion, de l'acceptabilité, parce que il y a un problème de rupture d'égalité. Le problème, c'est que on a le sentiment que au gouvernement, on ne veut pas quand même entendre que cette égalité, je dirais pratiquement même cette obsession d'égalité en France, c'est ce qui détermine en permanence les comportements, les adhésions et l'acceptabilité sociale. Or, c'est fondamental. On va arriver vers une crise économique et sociale majeure si effectivement les Français n'ont pas le sentiment qu'ils sont en situation de pouvoir faire confiance et adhérer. Eh bien, ils vont faire de toute façon ce qu'ils commencent déjà à faire. Hein. Ils vont décréter eux-mêmes le déconfinement.
Et l'adhésion, ça commence par les maires. Et on le voit, il y en a un certain nombre déjà qui continuent de résister, qui ne veulent pas rouvrir l'école par exemple.
Absolument, c'est bien toute la difficulté, c'est qu'à la fois ils ont demandé effectivement d'être investis aussi et concernés, ne pas uniquement en permanence être dirigés par l'État centralisateur, mais ils ont le sentiment aussi qu'ils sont maintenant lâchés quelque part en race campagne. Et c'est vrai qu'une fois de plus, la confusion à l'intérieur des zones rouges et des zones vertes en fonction des établissements et des sections qui pourront rouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, les maires nous disent que être en rouge, ça veut dire qu'on peut pas ouvrir les collèges, mais qu'on pourra ouvrir les petites sections. Donc, faut faire accepter ça aux parents. Ça, c'est très compliqué, même s'il y a des explications logiques. Mais on a le sentiment que tout ça se fera dans une forme de confusion et que on va être dans
c'est
l'adaptation.
C'est toute la difficulté du en même temps.
Exactement.
Qui a décision nationale et l'adaptation locale. Alors, il y a un secteur qui reste celui-là en zone rouge pour un moment, si je puis dire, c'est le sport professionnel et notamment le foot. Jean-François Pérez, là, c'est une tempête. Depuis hier sur le foot français, depuis que la Ligue a acté la fin de la saison et surtout le classement qui fait débat.
Oui, le classement qui fait débat parce que bon, on sait que le Paris Saint-Germain est champion, Marseille et Rennes devraient jouer la Ligue des Champions. Je dis devraient parce qu'il y a des problèmes financiers qui risquent de se poser. On va en reparler. Et puis Amiens et Toulouse sont relégués en Ligue 2 et les perdants du coup ne sont pas contents. Le dernier en date, c'est Amiens. Cet après-midi, Amiens 19e de Ligue 1 et donc relégué en Ligue 2, qui fait savoir qu'il pourrait contester sa relégation devant les tribunaux. Le président Bernard Johannin déplore, je cite, une décision lourde de conséquences qui manque d'humanité. Alors, il faut dire quand même que pour Amiens, comme pour d'autres budgets modestes de Ligue 1 et du foot pro, cette fin de saison prématurée, c'est une catastrophe industrielle. Amiens, c'est un petit budget, il dépend majoritairement des droits télé, il n'y a plus de matchs, il n'y a plus d'argent, il y a des nombreux emplois qui sont menacés. Et le club Picard n'était qu'à 4 points d'un éventuel maintien. Il restait à peine 10 journées à jouer, donc on peut entendre la colère. Alors il y a aussi Toulouse, qui était 20e, sur la même longueur d'onde d'ailleurs que les Amiénois, malgré une situation désespérée au classement. Et puis, il y a aussi une grosse colère en Ligue 2, dans des clubs potentiellement barragistes qui pouvaient monter en Ligue 1. Ajaccio, Clermont, c'est terminé pour eux. Ils pourraient intenter un recours collectif. Et puis, il faut savoir une dernière chose, c'est que les droits TV, Sébastien, de la Ligue 1, vont exploser la saison prochaine avec l'arrivée du géant espagnol Mediapro. Et évidemment, tout le monde veut être sur la photo.
Il y a les enjeux évidemment sportifs et puis derrière effectivement il y a ces enjeux économiques. Alors on a parlé des relégables, on va se retrouver avec des actions en justice probablement dans les semaines qui viennent. Et
très
puis
possible.
Il y a le gros coup de gueule à Lyon aussi.
Oui, Lyon, c'est. Il faut expliquer un peu le contexte. Lyon, c'est un habitué des compétitions européennes, des palmarès, des bonnes places. Et Lyon pourrait ne pas jouer de Coupe d'Europe la saison prochaine pour la première fois depuis quasiment un quart de siècle. Alors son président, qui est là depuis encore plus longtemps, Jean-Michel Aulas, s'est démené jusqu'au bout ces derniers jours. Il avait tout de suite senti le vent tourner au début de la crise. Il avait été le premier à réclamer l'annulation de la saison. Ça lui permettait de récupérer miraculeusement parce qu'il ne l'a pas mérité sur le terrain. Cette saison. saison, une place en Ligue des Champions. Lyon n'est que 7e hein, du championnat cette saison. Et cette hypothèse, elle a été rapidement balayée par l'UEFA. L'UEFA souhaite récompenser le mérite sportif de la saison actuelle. Alors, volte-face de Jean-Michel Aulas à 180 degrés, il a proposé un retour sur les terrains le plus rapide possible, sous forme de play-off, une sorte de tournoi final, si vous voulez, à huis clos, pour distribuer les tableaux d'honneur de la saison. Et bah, du coup, le doyen des présidents, vous savez, il est très influent sur les affaires du foot français. Mais là, cette fois, il n'a récolté que des sarcasmes pour son entêtement jugé égoïste. Sur Europe 1 ce matin, Bernard Caillazo, le patron du principal syndicat de clubs professionnels, s'est réjoui, je cite, de la fin du concours Lépine. Jean-Michel Aulas n'a pas dit son dernier mot. Il compte réclamer des dommages et intérêts, peut-être des dizaines de millions d'euros. Vous imaginez le conflit qui est peut-être en train de démarrer, même si Lyon, normalement, qui est un club très bien géré, devrait s'en sortir sans trop de dégâts, contrairement à beaucoup d'autres.
Ouais, bataille de gros sous en vue. On se demande quelle pouvait être la bonne décision dans ce contexte si compliqué. On arrête la saison.
Celle qui a été prise.
Quelle que soit la décision, elle aurait été défavorable à certains.
Quoi
on peut probablement se dire ça. Ça vous fait beaucoup réagir au 39-21. Si on sera avec Alain dans une toute petite minute. Et les grandes voix, évidemment, restent avec nous. À tout de suite.
La suite de votre grand journal du soir avec les grandes voix à vos côtés, Sébastien Krebs.
À mes côtés, Ève Roger, la chef du service politique, la chef du service société, Michaël Darmon, éditorialiste Europe 1, et Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europe 1, avec qui on évoquait l'arrêt de la saison de Ligue 1 et les conséquences des clubs qui envisagent désormais des actions en justice. Ça vous fait beaucoup réagir à la fois sur les réseaux sociaux et au 39-21. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Merci de rejoindre les grandes voix ce soir. Des décisions sur les clubs de foot. Vous êtes originaire des Yvelines. Bon, je ne sais pas si vous êtes supporter du PSG, mais en tout cas, le PSG est sacré champion. Là, ça fait pas trop débat. Le reste, en revanche, fait débat.
Oui, mais en fait, moi, je pense que toutes ces questions de court terme, la décision est sage et les recours, à mon avis, ont très peu de chance. Mais je voudrais élargir un peu la discussion parce que on a l'impression, en écoutant les présidents, la Ligue, etc., que après tout va redevenir comme avant, parce qu'on a là un secteur économique, le football européen, qui a connu une croissance phénoménale depuis 20 ans, avec des recettes qui montent de billetterie, de droits télé, donc des transferts, et ça tombe en pluie fine ensuite jusque sur les petits clubs. Et ma question, c'est est-ce que les grandes voix, vous pensez vraiment que ça va redevenir comme avant et qu'il ne faut pas au contraire dès à présent réfléchir à des solutions qui permettent de trouver un nouvel équilibre? Je pense par exemple, on a pensé au plafonnement de la masse salariale et des choses comme ça, parce que moi, je pense que ça va plus du tout être comme avant. Tant qu'on n'aura pas de vaccin, on risque de pas retrouver des stades pleins de 50, 80 000 personnes. Les droits télé, on ne sait pas où ça va aller, etc.
Est-ce qu'il ne faut pas changer de modèle économique finalement? Merci beaucoup pour votre question, Alain. Je laisse répondre, bien sûr, Jean-François Pérez.
Après avoir eu évidemment ces derniers jours beaucoup de dirigeants du foot français au téléphone, beaucoup d'universitaires qui planchent sur le sujet, d'économistes, le système en tant que tel, je ne le vois pas changer. Ça n'engage que moi. Je ne le vois pas changer. En revanche, ce qu'il pourrait changer, c'est la dimension économique de certaines pratiques du football. Les salaires des footballeurs, en effet. Les droits télé, c'est fort possible. Les prix d'une place, peut-être, pour assister à un match de football vont baisser. On va peut-être entamer une descente qui serait, selon moi... bienfaitrice, parce que voilà, c'est vrai que le foot vivait dans une bulle depuis des années et des années. Les clubs se sont trop liés pieds et poings aux droits télévisuels pour dégager une économie saine, et on voit très bien que le système s'est mis tout seul en danger en quelques jours à peine, parce que les diffuseurs télé n'ont plus voulu mettre la main à la poche pour des matchs qui n'avaient plus lieu, et les pertes, elles se chiffrent entre 500, 600 et 800 millions d'euros quand même. On parle de sommes absolument considérables, et évidemment ils risquent d'y avoir des dépôts de bilan, il risque d'y avoir peut-être des faillites, des clubs qui vont être rachetés dans les semaines ou les mois qui viennent, et le football tel qu'on le connaissait il y a quelques semaines encore, ne sera plus tout à fait le même. Mais le système en tant que tel, avec les instances, avec les clubs, avec les syndicats de joueurs, et avec en gros cette bulle économique, même si elle sera un petit peu plus modeste, pour l'instant je ne vois pas ça changer du tout au tout.
Une question sur un tweet sur le hashtag Radio Ouverte, Anissa.
Oui, effectivement, et c'est encore une question pour Jean-François Pérez autour du sport. C'est Étienne qui vous demande, Jean-François, n'était-il pas possible d'envisager un championnat à 22 équipes sans descente de Ligue 1 pour préserver économiquement certains clubs ?
Alors ça a été envisagé, ça a été même très sérieusement envisagé, mais on se heurtait à divers problèmes. D'abord parce que les règlements ne prévoient pas d'élargir la compétition à plus de clubs que 20 clubs. C'est une décision qui doit se prendre, qui ne dépend pas simplement du bon vouloir, hein, mais c'est un processus réglementaire, normatif qui est assez lourd. Et puis vous me voyez venir sans doute, 22 clubs dans un calendrier qui est déjà surchargé avec un championnat qui va peut-être démarrer plus tard avec des Coupes d'Europe, des Coupes nationales la Coupe nationale, puisque la Coupe de la Ligue va disparaître, mais la Coupe de France qu'il va falloir démarrer également, et puis le championnat d'Europe de foot avec l'équipe de France qui va également avoir lieu normalement à l'été 2021. On va avoir trop de matchs déjà à jouer à partir du mois de fin août, disons début septembre, et si on passait en plus à 22 équipes, ça nous faisait passer de 38 à 42 journées pour le championnat de Ligue 1, et c'était vraiment impossible à résoudre comme problème. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, si vous voulez, ce n'est pas aller plus loin.
Voilà, il y avait plein d'idées, ça fait forcément débat, mais évidemment, il fallait acter quelque chose. Je vais revenir vers Ève Roger pour un autre sujet. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 18h, le gros coup de colère des pharmaciens aujourd'hui sur cette bataille autour des masques qui vont être vendus à la fois dans les pharmacies, mais aussi dans les grandes surfaces et dans tous les magasins au sens large. Et pas seulement le coup de gueule des pharmaciens, puisqu'il y avait l'ordre des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, des dentistes. Qui dénonce une surenchère de l'indécence. Ils sont en colère quoi ? Ils voulaient avoir le monopole, en gros, de la vente des masques ?
Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. On a entendu effectivement un pharmacien, mais c'est vrai que tous les ordres de médecine se sont révoltés hier soir. On a reçu le communiqué très très tard, la veille du 1er mai. C'est vraiment qu'ils étaient très très remontés. Et quand on peut comprendre que aujourd'hui les masques chirurgicaux, hein, on parle des masques chirurgicaux, c'est-à-dire pas les FFP2 ni les masques grand public. Donc ces masques chirurgicaux, qui sont des masques importants, sont aujourd'hui réservés aux seuls soignants. Et il en faut à peu près 45 millions par semaine. Et aujourd'hui, les pharmaciens avaient une dotation d'État et ils distribuaient cette dotation d'État, mais de façon extrêmement précautionneuse, c'est-à-dire quelques unités par-ci, il y en avait 18 pour les médecins, 6 pour les kinés, 6 pour les sages-femmes par semaine. J'en ai appelé un cet après-midi, un pharmacien, qui m'a dit que c'était comme la guerre, c'était de la réquisition en temps de guerre. Donc on parle, ils le donnaient, donc ils le vendaient même pas. Et maintenant, ils entendent parler de centaines de millions de masques qui seraient disponibles la semaine prochaine dans les grandes surfaces. Alors ils disent que leurs propres patients, enfin c'est pas des patients, mais leurs clients malades, personnes fragiles, ils n'ont même pas le droit de leur donner ni même de vendre, alors que ils ont plus de 70 ans, alors qu'ils sont parfois atteints de cancer, alors qu'ils sont parfois atteints d'autres maladies. Donc d'une certaine façon, c'est vrai que ça paraît un peu incroyable alors que les personnes fragiles ne sont pas protégées, qu'on puisse maintenant les vendre en grande surface. Et c'est vrai que, en même temps, si on se passe du côté du grand public, on se dit, vous, moi, qui ne sommes pas forcément des personnes à risque ou fragiles, ça serait plus simple d'aller acheter, je ne citerai pas de marque, son masque chirurgical. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'incohérence. Il y a une forme d'incohérence, et quand les pharmaciens auront le droit de vendre, ça sera exactement au même prix. Donc je ne crois pas que ce soit une question de guerre commerciale. C'est plutôt une question de pas comprendre en fait quels sont les réseaux de distribution, comment ces grandes surfaces ont pu avoir des millions, des centaines de millions.
Ils ont le sentiment qu'il y a eu des approvisionnements cachés, quoi.
C'est ça. Alors évidemment, ils se défendent tous, il n'y a pas de stock caché. Mais c'est vrai que ils sont en colère contre le gouvernement, en fait, d'avoir permis cette chose qui leur paraît absolument incohérente.
Ouais, Mickaël Darmon, on sent que les soignants ne sont pas réconciliés, hein, avec le gouvernement, que la crise du financement des soignants, du financement de l'hôpital, elle couve toujours, et encore plus peut-être en ce 1er mai.
Oui, absolument, et c'est peut-être aussi pour cela que très certainement Emmanuel Macron a tenu aussi à être présent dans cette journée du 1er mai avec cette vidéo donc qu'il a publiée ce matin, avec ce message du 1er mai où il rend hommage donc aux travailleurs, au travail qui tient la nation. Pour une fois depuis des années, on ne parle pas, on ne mesure pas l'unité syndicale au soir d'un 1er mai, mais on regarde et on voit comment le président a tenté d'envoyer un message d'unité nationale, parce qu'il sait très bien que effectivement tous les incendies, les conflits sous les radars, les signaux faibles vont ensuite se certainement augmenter lorsque la parole des Français sera déconfinée. Genre, tout à l'heure l'auditeur qui parlait par rapport au football et au changement de modèle nécessaire, cette réflexion, elle vaut pour l'ensemble de tous les sujets, de la sphère publique et de la société. Au fond, on se demande, même quand on comprend, on entend ce qu'a dit Édouard Philippe à l'Assemblée, il va falloir vivre avec le Covid-19. On a l'impression, si quelque part, il n'est pas rentré au gouvernement, ce virus. C'est-à-dire qu'au fond, c'est lui qui dirige, quoi, aujourd'hui. Voilà. C'est il impose des changements de modèle qui ont parfois nécessité des discussions ou des réformes qui peut-être n'aboutissent jamais, des débats qui sans fin sur les réformes qu'il faut faire. Et là, on voit bien que tout le monde est en prise de conscience. Alors bien évidemment, il y aura un modèle qui sera beaucoup plus centré sur la protection, la relation aux autres, la découverte des enjeux de l'environnement, peut-être effectivement des modèles économiques qu'il faut revoir. On sait que tout cela va confusément changer. Combien de temps ça va prendre? À quel moment ça va se donner rendez-vous? Est-ce que c'est à l'élection présidentielle ou après? Pour l'instant, évidemment, c'est encore l'énigme.
Ève Roger, il y a un dernier aspect qu'on peut évoquer. Il nous reste 2 minutes, mais on parlait des masques. Il y a un autre outil de ce déconfinement qui arrive. Ce sont les tests sérologiques. Pourtant, Édouard Philippe n'en parlait pas dans son discours, mais il y a des collectivités qui s'y intéressent et ça arrive. En fait, ils arrivent, ces tests.
Alors, en fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que enfin, il y a 8 tests sérologiques qui ont été validés par l'Institut Pasteur. Ça nous a été annoncé à la commission, pas à nous, mais aux députés. En commission mercredi par le directeur scientifique de Pasteur. Donc ça veut dire qu'il a fallu en valider 7-8 alors qu'il y en avait des centaines à étudier. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et donc ils vont être... on va avoir la liste bientôt qui reste encore secrète. Samedi après-midi, c'est-à-dire demain, on aura le mode d'emploi, c'est-à-dire à quel moment il faut faire ces tests-là et pour qui et dans quel objectif, parce que vous savez que c'est une façon de savoir si on a des anticorps et donc si on a été malade. Donc c'est un test après la maladie, si vous voulez. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que en fait la science et les médecins ne savent toujours pas très bien justement à quel moment on fabrique cette immunité, à quel moment on fabrique les anticorps, si ces anticorps sont tous protecteurs, s'il n'y a pas des anticorps qui sont au contraire facilitants, c'est-à-dire qui accentueraient la maladie. Donc au fond, la mauvaise nouvelle,
c'est que... Combien de temps ils durent ? Combien de temps on les garde ?
Voilà. C'est surtout qu'on ne saura pas précisément, sans doute, chacun du point de vue individuel, mais quand même, d'un point de vue collectif, on va pouvoir avoir une vision, une image de la société, combien de personnes ont eu le Covid-19, par région et par département, ce qui va sans doute aider peut-être à fabriquer des cartes.
Reste à savoir combien de tests on aura et combien de personnes pourront les pratiquer.
En
bénéficier. La région Grand Est annonce en avoir commandé 3 millions d'ici à la fin du mois de mai.
L'important, c'est de commander les bons tests. Vous voyez, c'est ça. Ce qui s'est passé avant, c'est que toutes les régions ont commandé à tire-larigot. Il y en a souvent, ils ont commandé des tests qui ne fonctionnaient pas.
Merci les grandes voix, merci à tous les trois d'être venus ce soir en ce 1er mai. Ève Roger, chef du service Société, Jean-François Pérez, chef du service Économie, et Mickaël Darmon, l'éditorialiste
des sports.
Et Mickaël Darmon, éditorialiste Europe 1. On vous retrouve dimanche, le grand rendez-vous, 10h avec les Échos. Vous recevrez le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Bon week-end à tous les trois, merci.
Bon week-end.